Florence. Réservation point de vente habituel et cartonnerie.fr.
Les artistes régionaux ont leur radio. RGR.
The Shoes. Zoéco.
Dis-moi, tu préfères quoi, toi, tu préfères quoi?
M.A.O. Cor Montreuil. Les artistes régionaux ont leur radio. RJR. RJR, Radio Jeune Reims.
Sport Club. Le MAG.
Et quel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi 19h-20h. C'est le MAG de Sport Club, l'occasion de partir à la découverte de sportifs, de disciplines, d'événements sportifs, de clubs sportifs. On fait ça tous les jeudis depuis tant d'années et c'est un plaisir de le faire encore à nouveau ce jeudi. On est même là pendant les vacances, voyez, c'est un plaisir de vous accompagner. Tout à l'heure, on parlera même pendant les vacances un peu de scolaire puisqu'on accueillera des jeunes du collège Joliot-Curie. Mini Joliot, c'est de la mini-entreprise et ils ont décidé, dans le cadre de la mini-entreprise de cette année 2025, eh bien d'imaginer, de créer une carte interactive dans laquelle on peut retrouver l'ensemble des structures à Reims sportives gratuites. Voilà, des tables de ping-pong, des petits city stades, des petits terrains de basket, des pistes d'athlétisme. Il y en a peut-être près de chez vous que vous ne connaissez pas et ça vous coûte peut-être moins cher d'y aller que d'aller dans une salle de sport. Et tout ça, bah, c'est réalisé par les jeunes qui sont de Joliot-Curie. Ça s'appelle Sport in Reims, on les recevra, en tout cas pour une partie, dans quelques instants. Avant ça, donc, il faut qu'on parle d'un autre projet qui nous tient à cœur et je sais qu'on a plaisir à la recevoir dans cette émission à chaque fois qu'elle intervient. C'est Sandra Millard, la présidente de Natandi Artistique. Salut.
Bonjour Julien.
Sandra, on est très heureux de t'accueillir. On connaît le projet Natandi Artistique. Tu viens régulièrement. D'ailleurs, on accompagne une des nageuses que tu connais un petit peu, Elsa, qui grandit et qui continue de monter ses projets. Là, on est parti justement sur la reconnaissance de cette discipline, la natation artistique pour les personnes en situation de handicap à travers ton activité. Je sais qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, qui bougent. Vous avez déjà d'ailleurs eu le droit à un bel article chez nos confrères du journal L'Équipe, qui a quand même une ampleur un peu plus grande, on peut quand même le dire, à l'échelle nationale que RJR. Ça veut dire que la visibilité de votre discipline sur quelque chose qui est post-olympique aujourd'hui, eh ben ça avance. Enfin, j'allais dire, même si on en veut toujours plus.
Alors oui, ça avance enfin. On a eu les Jeux paralympiques, effectivement, qu'on mis l'accent sur le sport pour les personnes en situation de handicap. Et puis nous, on a fait aussi les championnats du monde cet été, donc à Châlons en Champagne. Les deux croisés, cette dynamique, font que voilà, notre discipline pour les personnes en situation de handicap avance. Les démarches administratives avancent. On aimerait bien que ça prenne le TGV. Ça prend le petit train diesel, mais on y arrive. Et là, on est sur les projets sportifs de nos athlètes, justement pour cette année 2025.
Alors, vous en avez plusieurs des athlètes. Je sais que plusieurs ont en tête la possibilité de partir assez loin d'ici, hein, finalement, au mois de novembre, à l'automne prochain. Ça sera au Mexique, les prochains championnats du monde, c'est bien ça?
Voilà, les prochains championnats du monde de natation artistique pour les personnes en situation de handicap. Donc, ce sera au Mexique. C'est le club Les Sirenas Especial qui est sur Mexico, qui les organise. Donc, du 21 au 23 novembre 2025. Et à l'heure actuelle, effectivement, Natandi Artistique compte 26 athlètes répertoriés sur toute la France, donc sur 13 clubs. En 12, excusez-moi, donc 12 clubs, 26 athlètes. Et sur ces 26 athlètes, il y en a une petite dizaine qui souhaitent partir au Mexique. Et pour eux plus localement, on a dans cette dizaine 3 athlètes rémoises qui souhaitent partir au Mexique. Donc elles font partie du club Aquarins Artistique, dont je suis la référente Andy. Et donc voilà, on a ces 3 jeunes filles.
Alors tout ça, évidemment, alors vous avez déjà eu, j'allais dire, à la fois le bonheur et puis la responsabilité d'organiser des championnats ici, c'était dans la Marne, à Châlons. C'est des moments qui sont forts, c'est des moments qui sont importants et qu'on peut-être néglige un petit peu, nous, dans les médias. Alors, je sais qu'on en avait tous parlé un peu ici, localement, mais quel souvenir tu en as, toi, de ces moments à Châlons?
Des frissons. Des frissons, un grand élan. On est porté dans ces événements-là. C'est vrai que moi, j'ai été 4 jours sans toucher terre. mais aussi parce que il y a une... une ambiance d'inclusion, une ambiance de solidarité entre les athlètes de tous les pays qui est magnifique. Et cette solidarité, on la retrouve au niveau du sport pour les athlètes en situation de handicap où on n'est pas concurrent, on est coéquipier même si on n'est pas du même pays. On est dans la même discipline, dans la même passion et c'est des événements qui portent, qui sont magnifiques.
On parle de jeunes en situation de handicap, mais il y a tous les handicaps là. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus? Parce qu'effectivement, sur la dizaine peut-être qui estime pouvoir partir au Mexique, de quel type de handicap on parle, Sandra?
Alors, on parle de tout handicap confondu. On va du handicap cognitif et psychique, trisomie 21, autisme. On va sur du handicap physique, avec aussi notamment des maladies dégénératives, des accidents de la vie aussi. Et on a aussi des handicaps sensoriels, donc pour l'instant, des malentendants.
Et c'est important de le souligner. On essaye de faire de temps en temps des zooms, et c'est la raison pour laquelle on accompagne Elsa, mais on pourra en accompagner d'autres, évidemment, avec grand plaisir, parce que, évidemment, chaque projet est personnalisé et individualisé. Pour autant, donc, on revient à l'objectif de ces mondiaux. Vous l'avez compris, le Mexique, c'est pas la porte à côté, ça nécessite quelques moyens. C'est budgété, ça, à peu près, ce que ça représente, parce que l'idée, c'est de les envoyer, les sportifs, et puis il y a, évidemment, les accompagnants.
Bah voilà, donc, quand on part comme ça, faut compter un athlète, son entraîneur, parce que bah voilà, il va faire un solo par exemple, et donc il y a l'entraîneur du solo, et comme l'entraîneur va quand même pas gérer l'athlète 24/24, surtout en situation de handicap, faut compter un accompagnant. Donc un athlète qui part avec un solo, c'est trois personnes qui partent. Quand on est sur un duo, bah il faut quatre personnes, parce que bah il y a deux athlètes et un accompagnant, un entraîneur et des fois un deuxième accompagnant quand même.
Bon, donc tout ça fait un peu de monde, du coup un petit peu d'argent, et c'est la raison pour laquelle vous avez, alors, d'une part, engagé une petite tournée qui permet de faire la promotion de la discipline et puis de récolter les moyens nécessaires pour les envoyer au Mexique. Dans le cadre de cette tournée, il y a un projet là qui est en train de naître et qui aura vocation à se réaliser particulièrement le 5 juillet prochain. Ça va se passer à l'UCPA Sport Station. Ça s'appelle le nageathlon. Sandra, il faut que tu nous expliques de quoi il s'agit.
Alors voilà, oui, donc Natandia Artistique, c'est une association nationale. Et on a nos athlètes qui sont répartis un peu sur toute la France. Donc on cherchait un événementiel qui pourrait être porteur au niveau national et en même temps qui impliquait les athlètes et leur entourage et leur contexte de ville, de local. Pour les impliquer aussi dans notre recherche de fonds. Donc on a trouvé avec des étudiants de l'école PPA Sport, on a trouvé un concept qui s'appelle le nageathlon. Donc ce nageathlon, le principe c'est de trouver des sponsors locaux pour les événements locaux qu'on va faire à travers la France. On va avoir des sponsors qui vont mettre des dons en fonction des kilomètres que nos nageurs volontaires auront réalisés dans les piscines qui nous seront mises à disposition.
Donc si je comprends bien, il y a un défi à la fois économique et puis un défi sportif. En fait, finalement, on mène les deux et chacun peut être finalement un peu à sa place, quoi.
Voilà, le sponsor, effectivement, bah, va être du côté économique, mais aussi en favorisant la pratique sportive pour tout à chacun. Et puis, tout à chacun bah, va pouvoir se dire, ce jour-là, je vais à la piscine, je fais des longueurs, mais je les fais aussi pour montrer que je les fais par solidarité pour des athlètes qui ont peut-être aussi plus de difficultés à les faire, ces fameuses longueurs. Et puis, bah, leur longueur, ce sera des petits bâtons, et ces petits bâtons, bah, à la fin, feront qu'on aura relevé le défi et que nos sponsors pourront abonder en fonction de leur distance.
On parle de petits défis, mais sur la totalité, alors après chacun fait ce qu'il veut finalement, mais vous vous êtes fixé cette barrière qui est quand même assez importante de 100 km, c'est ça sur la journée donc du 5 juillet ici.
Voilà,
à Reims.
Voilà. On aimerait bien réussir à faire 100 km, c'est un peu symbolique, donc 100 km, et puis bah, voilà, ça sera ce qui sera la représentation la plus haute pour nos sponsors, et nos participants, bah, ça va être le challenge d'y arriver à ces 100 km. Donc on a l'UCPA qui nous permet d'animer l'UCPA sur cet événement le 5 juillet. Et donc ça va être de la participation parce que le samedi à l'UCPA, il y a les bébés nageurs, il y a des cours de natation, mais ça va être aussi leur participation. C'est-à-dire que un enfant qui va être en cours de natation pourra avoir fait fièrement ses 100 mètres, participer à 100 mètres pour mettre dans les 100 km, et donc sera valorisé aussi de ce défi qui est quand même intéressant de pouvoir montrer qu'on sait faire quelque chose et qu'on peut le faire pour les autres.
En vrai, super idée, effectivement. effectivement. Puis en plus, c'est quelque chose de collectif. On travaille sur le bien vivre ensemble, au-delà de faire découvrir la discipline et l'inclusion que ça génère. Donc, pour que les choses soient claires, Sandra, là, il y a deux types de personnes qui peuvent nous écouter. D'ailleurs, on peut faire les deux, hein. On peut à la fois donner et nager. bah oui. Donc, il y a celles et ceux qui peuvent faire autant d'allers-retours dans le bassin qu'ils le souhaitent ou qu'ils peuvent, ça va déclencher donc des dons. Et donc la deuxième partie, c'est ceux-là, c'est les gens qui peuvent donner. Je sais que vous avez imaginé des petites contreparties selon les paliers de dons que des entreprises ou d'autres pourraient proposer finalement.
Voilà, donc l'UCPA nous met à disposition le complexe, on va dire, au niveau locaux, etc. Donc nos partenaires auront selon leur palier de don, la possibilité de mettre des kakémonos ou des bâches à leur effigie ou des flammes. Mmh. Ils pourront aussi éventuellement avoir un stand dans le hall de l'UCPA pour pouvoir présenter leurs produits, leur entreprise. Ils pourront aussi avoir une présentation vidéo du nageathlon et donc de leur participation sur les télés qui sont à l'entrée de l'UCPA, donc sur une quinzaine avant l'événement. Et puis, on aura aussi une petite démonstration de natation artistique et donc les gens qui vont venir à l'UCPA pourront aussi assister et on aura aussi des places on va dire VIP pour nos partenaires pour pouvoir inviter des clients éventuellement.
Voilà, pour les prochains galas etc. Donc ça c'est plutôt une bonne initiative. Le premier palier il a autour de quelle somme à peu près ?
Alors le premier palier est à 500 euros pour quelqu'un qui souhaite nous aider en fixe et puis après on a des paliers qui augmentent. On a la possibilité aussi de nommer une course au nom de l'entreprise.
Le naming. Donc le challenge du nom de l'entreprise.
Voilà, le challenge du nom de l'entreprise qui sera cité aussi sur les supports de communication.
Bon, le challenge RJR, pourquoi pas, j'en réfère à mes responsables. Avec grand plaisir, mais en tout cas on relaye déjà. Donc on peut noter la date, c'est le 5 juillet, ce sera à la piscine de l'UCPA à Saint-Étienne en plein centre-ville, on peut pas se tromper. 9h 18h30 pour les horaires, mais pour y accéder et y être ce jour J, il faut quand même vous contacter au préalable, hein, que ce soit dans les dons ou dans la volonté d'y participer.
Alors dans les dons, oui, puisqu'il va falloir qu'on organise
le kilométrage, don. Voilà.
Par contre, pour participer, c'est tout à chacun. Donc l'UCPA.
Donc on peut arriver le 5 juillet en disant tiens, il y a du monde, c'est quoi ? Ah bah moi aussi je veux faire.
Voilà, et il suffit de payer son entrée à l'UCPA ou d'y aller avec son abonnement ou son abonnement de cours de natation pour ce jour-là. Et toutes les personnes qui rentreront dans la piscine pourront participer. Et celui qui veut pas participer, il pourra aussi pas participer s'il a envie aussi.
Il pourra crier pour encourager.
Voilà. Et on aura quelques petites surprises. On est en train d'essayer de mobiliser un peu pour faire des surprises pour des non-nageurs, même pour les nageurs, mais pour les non-nageurs, on va essayer de faire des surprises peut-être avec des sportifs rémois, on va voir.
Super, ça serait plutôt intéressant. Qui pourrait participer ? Allez, j'essaie de gratter un petit peu.
Faut qu'on les trouve. On va les trouver. Si...
On fait un appel, là. De toute façon, vous êtes athlète, pas athlète, vous voulez participer. D'ailleurs, puisqu'on est sur la promotion de quelque chose d'inclusif, toute personne, même en situation de handicap, peut participer à cette journée, c'est important de le rappeler. Hein.
Alors oui, toute personne, même en situation de handicap, peut-être éventuellement, effectivement, prévenir quand on a besoin de système de mise à l'eau, pour que ça, on anticipe, pour qu'on puisse gérer le flux, parce que il n'y a pas 10 000 systèmes de mise à l'eau, donc qu'on puisse gérer le flux à ce niveau-là, éventuellement, ça nous prévenir sur un petit mail au niveau de l'association, mais de toute façon, il y aura nos coordonnées. Après, pour tout le reste, dès qu'il n'y a pas besoin de système de mise à l'eau, c'est vraiment entièrement libre pour pouvoir venir.
Vous allez sur nat-andy-artistique.fr, comme ça, j'imagine qu'on aura la possibilité de vous contacter assez facilement via cette adresse. J'imagine que via les réseaux, ça marche aussi. Je sais que vous êtes assez actif sur quelques plateformes, et plutôt réactif d'ailleurs, je dois le reconnaître et je dois vous saluer pour ça. Donc voilà, c'est autant de possibilités de pouvoir vous contacter si jamais vous êtes touché, sensibilisé, vous avez envie d'aider la structure dans cette cause-là. C'est ça, hein.
Voilà, c'est tout à fait ça. Notre site internet, donc nat-andy-artistique.fr, page de garde, il y a notre adresse mail, il y a les contacts téléphoniques, donc il y a moyen de nous joindre. On essaye d'être réactif.
Bon, je pense que vous l'êtes, hein. Franchement, là-dessus, vous n'avez pas à rougir. Je rappelle effectivement aussi que, au-delà de la promotion de la discipline, il y a ces championnats du monde en vue, 2023. Novembre.
21-23. Le 20, ça va être une journée de, plus ou moins de formation. On va échanger entre les différents pays présents.
hyper intéressant ça au niveau de l'échange. Et au-delà d'y aller, par expérience, parce que je connais quelques résultats des précédents championnats du monde, vous y allez rarement pour faire du tourisme, hein, en tout cas pas que, hein, c'est-à-dire qu'il y en a quelques, il y en a quelques-uns qui reviennent plus lourds en médaille que le moment où ils sont partis.
Ah bah, comme avait pu dire Elsa en 2022, on espère un petit supplément de bagage, donc voilà, on espère toujours effectivement que nos athlètes vont briller au plus haut niveau, et effectivement ils ont cette capacité de se dépasser pour de tels événements, et on rappelle aussi aux sponsors que ça peut être intéressant, même si le podium est au Mexique, de pouvoir les suivre jusque-là, ça, c'est aussi une belle image pour eux.
Oui, c'est ce que vous appelez de l'engagement sociétal, mais on est complètement là-dedans, hein, pour le coup. Mais c'est important de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être encore trop de Rémoises et de Rémois qui ne le savent pas. Ce sont des jeunes, via le projet Nathandi Artistique, qui sont, pour certaines, multimédaillées mondiales. On en pense ce qu'on veut, mais c'est quand même pas rien. Moi, j'ai pas de médaille autour du cou, hein, donc c'est une performance, quoi.
Oui, donc là, pour les Rémoises, celles qui vont aller au Mexique, il y a donc Elsa, donc, qui effectivement redéfendra son titre de championne du monde. Et puis là, on va avoir une première, c'est un duo inclusif, Louison et Juliette. Donc Juliette est une athlète valide qui va accompagner Louison dans un duo.
Ça, et, c'est une super histoire. Hein.
Ouais, ça, c'est une super histoire, parce que elles sont quand même toutes choupinettes. Hein, elles ont 13 et 15 ans,
ouais,
donc elles sont toutes jeunes. Et donc, au niveau de Juliette, c'est un gros travail, parce que seconder un athlète dans l'eau, et on est quand même sur des conditions d'apnée, on est dans des conditions de rythme, etc. Tout en aidant sa coéquipière, c'est vraiment des choses assez magiques.
Je sais que la natation artistique, Sandra, pour te connaître un petit peu, au-delà de tout le travail de promotion que vous avez engagé, le travail avec les fédérations et les ministères, etc., c'est aussi une passion, la discipline. Qu'est-ce que ça implique comme engagement lorsqu'on a affaire à des jeunes comme ça, les choupinettes comme tu les appelles, qui ont un handicap quelconque, de plus à fournir comme effort que quelqu'un qui est en situation valide?
Alors,
ça dépend du handicap, tu vas me dire.
Voilà, ça dépend du handicap, mais il y a quelque chose qui est quand même commun. Une personne en situation de handicap, elle va compenser. Elle va compenser égale travailler deux fois plus. Donc, c'est quelqu'un qui va se fatiguer beaucoup plus vite. Et donc, effectivement, on ne peut pas avoir le même rythme d'entraînement avec une personne en situation de handicap qu'avec quelqu'un qui ne présente pas de handicap et qui n'a pas autant à compenser.
Ça veut dire que le travail est très individualisé quand vous vous retrouvez dans les bassins avec chacune?
Alors oui, c'est ce qui fait aussi un peu la particularité, et c'est ça aussi qui nous manque aussi au niveau de l'entraînement, c'est les capacités d'entraînement, parce que effectivement, il y a un moment où cet athlète doit être retiré du groupe, ou en petit groupe. Enfin, là, par exemple, Louison qui travaille avec Juliette, c'est un duo. Ouais. Elsa travaille en solo, mais il y a besoin de ce travail individuel avec l'entraîneur, et ça demande des créneaux en plus qu'on n'a pas toujours ou pas toujours les moyens de financer au niveau des structures. Et ça, c'est quelque chose qui serait vraiment bien qu'il y ait cette reconnaissance pour qu'effectivement elle puisse avoir les moyens de s'entraîner plus confortablement. Parce qu'en équipe, c'est très très bien, ça apprend vraiment aussi la cohésion, ça apprend à se gérer aussi dans la société, comme on peut le faire à l'école, on le fait dans le sport.
Principe de l'inclusion, ouais.
Voilà, principe de l'inclusion, mais comme quelqu'un qui a des soucis à l'école va peut-être pouvoir avoir des séances d'orthophoniste ou d'ergothérapeute, où on reprend des choses tout seul, et là, effectivement, c'est bien aussi de pouvoir travailler en individuel, et on n'a pas toujours les moyens de pouvoir le proposer.
Il faut savoir que ça existe, il faut les encourager, il faut les accompagner, parce qu'elles font, toutes ces jeunes filles, un travail assez formidable, j'allais dire une intensité d'engagement qui est quand même assez impressionnant aussi. Je sais qu'il y a un rêve, j'ai même plus envie de dire un objectif, parce que le rêve, ça paraît inatteignable. L'objectif, le but, c'est de l'atteindre, c'est d'être reconnu pour intégrer les Jeux Paralympiques 2032, Brisbane.
Ouais, Brisbane 2032. On a encore de l'espoir pour éventuellement être en démonstration à Los Angeles en 2028.
Alors j'ai regardé là, parce qu'ils ont plutôt parlé là, il y a eu des nouveautés cette semaine autour de Los Angeles, mais plutôt sur la partie olympique où il y a énormément de nouvelles disciplines. Il y en a en natation d'ailleurs, sur des courtes distances, mais c'est vrai qu'on parle pas trop pour l'instant du para là-bas, hein, à Los Angeles, ou alors j'ai pas vu.
Pour l'instant, non, on n'a pas eu les retours pour le para. Bah là, on a eu une déception au niveau de la natation artistique. Le duo mixte a été refusé au niveau des Jeux Olympiques. Bon, bah, c'est tout. On va attendre encore un petit peu. Bah, au niveau du paralympique, on a de l'espoir. Oui, parce
ça peut
que,
être une porte d'entrée. Hein.
Voilà, ça bouge au niveau international. On est de plus en plus de pays où c'est reconnu en parasport. Là, en France, les démarches sont en cours. C'est des démarches administratives, donc faut s'attendre à pas avoir le TGV pour ces choses-là. Et même si, voilà, on est impatient, mais c'est une dynamique qui est en train vraiment de se monter au niveau international. Et oui, on a de l'espoir pour Brisbane 2032, on aimerait vraiment bien.
Ah ouais, ça serait vraiment chouette et ce serait presque normal, nous, depuis le temps qu'on suit la discipline. Mais bon, les choses se mettent en place lentement quand on a des grosses structures administratives. La question à l'échelle fédérale, c'est sur quelle fédération ça peut être connu, parce qu'il en existe plusieurs en France. Alors évidemment, il y a la Fédération Française de Natation, il y a la Fédération du Sport Adapté, il y a la Fédération Handi. Donc la question, c'est de savoir comment tout le monde travaille entre la FFH, la FFSA, la FFN, pour que les choses puissent fonctionner pour tout le monde et surtout dans l'intérêt des jeunes.
Bah, c'est ça. C'est ça le point administratif, c'est la répartition de ce qu'on appelle la délégation du parasport. Il y a des questions d'échelle. C'est pas un sport qui est très très développé. Il y a 20 000 licenciés en France. Donc techniquement, on peut pas faire des compétitions qu'avec des athlètes handi, parce que niveau échelle, on va pas louer une piscine pour 10 personnes. Et donc, le faire avec les personnes de la Fédération Française de Natation, ça paraît logique d'un point de vue échelle. Par contre, d'un point de vue classification, d'un point de vue réglementation adaptée, réglementation handi, la Fédé peut pas non plus le faire tout seul. Et la grande réflexion, ce serait de faire une co-délégation pour pouvoir bénéficier des structures, enfin de la capacité d'accueil de l'un et des capacités techniques et médicales de l'autre. Donc faire travailler les trois fédés ensemble. Et ça, ce serait très très beau parce que ce serait la première fois.
Eh ben, c'est la question que j'avais posée. Ça ne se fait pas. Ça n'existe pas, ça, aujourd'hui. Alors, chacun fait un peu son truc dans son coin.
Non, chacun ne fait pas son truc dans son coin. C'est-à-dire qu'en France, il y a une liste de parasports qui existe depuis 2022. Et cette liste de parasports est prise en délégation par les fédérations. Donc, par exemple, pour certains sports comme le judo ou le tir, c'est la fédé d'origine qui a pris la délégation et qui se fait quand même aider par FFSA, handisport, quand il y a besoin pour les classifications, etc. Et certains sports, comme le foot, par exemple, où il y a beaucoup, beaucoup de pratiquants, ou la natation ou course classique, c'est FFSA ou handisport qui a pris les délégations de ces sports-là.
Question un peu plus personnelle, mais quand on est parfois un peu résigné à l'idée de se dire que ça ne va pas assez vite, est-ce que parfois on prend le temps de regarder dans le rétro et de se dire quand même, il y a du chemin qui a été parcouru et ça rassure aussi de se dire, bon, le chemin est long, mais on part pas de zéro non plus.
Oui.
On part plus de zéro.
On a vraiment quelque chose de très bien qui se fait là depuis cet été, et même un petit peu avant, ça commençait vraiment. C'est que maintenant, les clubs, avant de dire non à quelqu'un en situation de handicap, nous envoient un petit message.
Ah ouais, vous êtes référencé et vous
et
êtes
ça c'est
vous
magnifique.
Conseillez. Ouais, ça c'est
ça,
bien.
Ça c'est magnifique. C'est-à-dire que il n'y a plus d'enfants qui se voient dire non à la natation artistique parce que tu es en situation de handicap. C'est attends, on va y réfléchir. Et ça, c'est déjà
donc, c'est
énorme.
Quoi, là, vous avez un rôle aussi un peu de consulting, de se dire qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de façon à ce que vous puissiez accueillir la personne concernée.
Alors on travaille en réseau. On travaille en réseau, donc Natandi Artistique donc étant national, tous les entraîneurs donc sont adhérents à l'association, enfin tous ceux qui sont intéressés. On a des juges aussi et on a aussi des professionnels de santé ou des professionnels de la natation qui sont aussi adhérents à l'association. Et quand on a une problématique comme ça qui va, on a mis en place une commission sportive et on transfère à la commission sportive et en fonction des appétences de chacun, on va dire, ou de la localisation géographique. On va répondre à ce club et à sa problématique.
Bon, pourvu que ça continue et que ça grossisse encore, parce que déjà la natation artistique c'est une si belle discipline et en plus il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas accessible à tous et à toutes. Donc on continue de à notre échelle, Sandra, de relayer ces informations de façon à ce que ça puisse se diluer un petit peu partout. En attendant, donc les championnats du monde dont on va suivre évidemment l'évolution à distance, hein, du coup, parce qu'on va pas prendre l'avion nous. On vous donne rendez-vous, vous qui nous écoutez, le 5 juillet à l'UCPA Sport Station. Ça s'appelle le nageathlon et vous aurez l'occasion de faire un maximum de longueur et de faire un petit don, vous qui êtes peut-être... Alors ça marche particulier ou entreprise? Ça peut marcher les deux?
Alors s'il y a des particuliers aussi qui souhaitent faire des dons, hein, on est association d'intérêt général à caractère sportif, donc on peut délivrer des CERFA, donc ça il y a aucun souci. Donc c'est déductible des impôts, hein, donc là en ce moment, alors ça sera pas là, ce sera sur les revenus 2024, ça, ouais. C'est fini pour la mais on est en pleine déclaration d'impôts,
ouais,
actuellement,
ça y est,
donc
c'est parti.
Si vous vous rendez compte que vos impôts de 2024 sont peut-être élevés, que vous voudriez pas faire la même chose pour l'année 2025, c'est aussi l'occasion de donner pour l'association et d'avoir un CERFA pour les revenus de 2025.
Excellent argument de Sandra, qui est une très belle ambassadrice de son engagement, de son association, de sa discipline. Donc 5 juillet, le nageathlon. Plus vite vous avez pris votre décision et plus vite ce sera le mieux pour l'organiser, cette journée entre 9h et 18h30 à l'UCPA. nat-andy-artistique.fr ou alors vous tapez Nat-Andy Artistique. Bon, de toute façon sur Google ça fonctionne et sur les réseaux sociaux encore mieux. Donc on peut pas vous rater. Et comme ça en plus vous lâchez un petit like, un petit abonnement et vous aurez l'occasion de les suivre de près, ces jeunes athlètes qui se dépensent si bien. Merci beaucoup Sandra.
Ben merci Julien.
Je te souhaite la meilleure réussite et n'aie crainte qu'on n'est pas loin derrière pour soutenir évidemment cette belle cause. Petite pause et puis dans quelques instants on va prendre à ta place des jeunes qui sont pour le coup très jeunes là, pour le coup ils sont collégiens mais ils ont de la suite dans les idées, ces petits jeunes. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de faire un petit peu de sport hors piscine et puis de se dire bah oui mais je sais pas où est-ce qu'il y en a pas loin de chez moi, alors que de temps en temps on découvre tiens un city stade, tiens là une petite table de ping-pong, mais il y a rien qui référence tout ça. Et ben c'est eux qui ont décidé d'avoir cette idée assez lumineuse. Ça s'appelle Sport in Reims et l'idée c'est de générer une carte qui permette de recenser un peu tout ça gratuitement. On en parle juste après cette courte pause. Merci Sandra.
Merci.
Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh oh. So.
Ombre du cimetière, dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre. À deux, on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style.
Existe-t-il un autre style?
We are the ghost of men. Nous sommes the ghost of men.
Back in no time, back in no time, back in no time, so.
We are the ghost of men. Nous sommes the ghost of men.
Back in no time, back in no time, back in no time, so.
Dans ton chapeau.
Qu'est-ce que tu dis, man? Go speak my mother tongue. Comme moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute.
Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux.
Existe-t-il un autre style?
We are the ghost of men.
We are the ghost of men.
Sport Club. Le mag.
Et parlons désormais d'une nouvelle initiative sur RJR. Elle émane des jeunes du collège Joliot-Curie dans le cadre du programme Entreprendre pour apprendre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ces studios Dinara Sabrina Chamseddine, accompagnée d'une de leurs enseignantes, Madame Devolder. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Très heureux de vous accompagner parce que vous êtes en plein projet là de construction dans le cadre donc des mini-entreprises qui s'appelle Sportine Reims, c'est ça?
C'est ça. Oui.
Alors, il faut déjà peut-être qu'on refasse un petit tour de table pour savoir qui est qui, que les auditeurs puissent s'identifier à vos voix. Allez, on va aller de gauche à droite. En plus, comme on est galant, c'est bien qu'on commence par les filles. Bah oui, désolé, c'est par toi qu'on commence.
Bah, je m'appelle Dinara et je suis en post-marketing.
Ok, bienvenue.
Bonjour, je m'appelle Sabrina et je suis dans le Communique Express.
Donc c'est toi qui nous as envoyé le petit communiqué qui fait voilà, qu'on est tous ça. Là aujourd'hui derrière ce micro.
Oui.
Bon, super, bah merci pour ça.
Donc moi c'est Madame Devolder, alors Catherine, ils ne m'appellent pas comme ça, et je suis leur, donc du coup leur encadrante dans le cadre de la mini-entreprise, je ne suis pas leur professeur.
Très bien, et
bonjour, je m'appelle Chamseddine, je suis du service technique et de la direction.
Ok, donc si je comprends bien, vous avez tous un rôle, je vais y revenir là-dessus évidemment, mais avant ça, il faut peut-être qu'on explique pour les auditrices, auditeurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre ce genre de projet, une mini-entreprise dans le cadre de ce programme Entreprendre pour apprendre, c'est quoi Catherine?
Alors une mini-entreprise, donc c'est avec l'association Entreprendre pour apprendre. C'est un projet qui se passe soit avec des élèves de collège ou de lycée ou d'autres écoles particulières. Et on a pour but de créer une entreprise, donc un produit ou un service.
Ok, donc l'idée c'est de leur apprendre déjà suffisamment jeunes sur comment ça fonctionne quand ils seront sur le marché du travail, une entreprise tout simplement.
C'est ça, exactement, ouais. Découvrir les différents services, toutes les choses qu'on ne voit pas à l'arrière d'un produit ou d'un service qui est mis en vente.
Alors je sais que l'établissement est quand même très impliqué dans ce genre de démarche, on vous avait déjà reçu il y a quelques mois, une petite année je pense même maintenant, dans un secteur d'activité qui était bien différent de celui dont on va parler aujourd'hui, parce que la dernière fois c'était plutôt musique. Aujourd'hui, place au sport. Alors, qu'est-ce qui vous a envoyé sur cette thématique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes parti sur le sport? Déjà, je vous pose la question à tous les trois, les jeunes. Est-ce que vous-même, vous pratiquez, que ce soit de façon fédérale, en club, ou vous-même, de temps en temps, à la maison avec les copains, un peu de sport?
Oui.
Ouais, Sabrina?
Oui, je faisais du foot avant.
Donc. Trop bien, en club. Donc, t'es sensibilisée par la question. Mmh. Ouais, Dinara, toi?
Non.
Pas trop, tu préfères en parler? T'es comme
oui,
moi.
Oui, oui.
Chamseddine, est-ce que tu fais un peu de sport, toi?
J'ai arrêté.
Mais t'as fait quoi avant?
Du judo et de la gym.
Ah ouais, donc faut pas t'embêter, toi. Ok, alors vous nous avez dit dans vos présentations, et merci pour ça, que vous avez chacune un rôle important dans cette entreprise. Comment vous vous êtes répartis les rôles et combien vous êtes d'ailleurs au total?
On est 7, mais moi je voulais faire marketing parce que j'aime bien faire les affiches et tout, voilà.
Donc marketing, ça consiste en quoi en fait pour que tu puisses expliquer aux gens ce que tu y fais dans cette initiative?
Et moi je fais les affiches, les cartes de visite et voilà.
Donc l'idée c'est que ça se voit et que ça puisse s'exporter le mieux possible.
Oui.
Bon, mission importante, hein, évidemment. Donc Sabrina, tu nous as dit communiqué de presse, donc toi toutes les relations avec l'extérieur.
Voilà, c'est ça.
Qui vont faire connaître un petit peu le projet aux autres.
Exactement.
Et toi Chamseddine, tu nous as dit technique, alors on va revenir évidemment sur le contenu de votre projet, mais l'idée c'est que vous fassiez une carte, hein, c'est ça, qui puisse localiser à Reims toutes les pratiques possibles du sport. Ça veut dire quoi, partie technique? Qu'est-ce que tu fais exactement?
Alors non, ça de faire la carte, c'est-à-dire les cartes, les points, pour que ceux qui vont utiliser la carte puissent se repérer et placer d'autres points.
Hyper technique, effectivement. Donc, est-ce que tu as une méthode aujourd'hui? Alors, sans rentrer dans le détail, parce que les gens vont pas tous comprendre, et puis bon, l'idée, c'est pas qu'on rentre vraiment dans le détail, mais est-ce que tu apprends plein de choses en même temps là que tu fais ce projet, toi? Il y a des choses que tu as découvert que tu savais pas avant et qui t'ont permis de progresser là en faisant ce projet jusqu'à maintenant?
Les tableaux Excel.
Bah, ça en fait partie, ouais, exactement. Ce projet, il en est où là pour toi sur le côté technique? On est début avril maintenant, on en est où du projet pour toi?
Ça a bien avancé.
Ouais, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça ressemble à quoi? Est-ce que la carte elle existe aujourd'hui?
La carte elle existe, on peut la retrouver sur notre page Facebook.
Ouais.
Je crois que c'est Mini Joliot. Après, quand on est sur la carte, on verra des points de plusieurs lieux, du coup des tables de ping-pong, des endroits pour courir, des loisirs pour les enfants, c'est-à-dire des petits parcs. Et après, c'est simple, on place un point et on choisit qu'est-ce que c'est.
Merci pour ces réponses. Là, ce que je comprends, c'est que finalement, il y a quand même plusieurs objectifs. Ça m'a l'air hyper ambitieux, donc bravo pour ça quand même, cette initiative. Comment c'est venu l'idée de créer une carte? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué pour trouver un endroit pour faire du sport? C'est venu de où, cette idée?
Bah, en fait, c'est venu comme ça. On savait pas trop quoi faire, du coup, on cherchait. Et au final, vu qu'on a vu qu'on faisait presque tous du sport à peu près, on s'est dit pourquoi pas choisir le sport et tout pour faire découvrir aux autres.
Et vous êtes déjà tombé sur cette problématique-là de se dire, bah tiens, j'aimerais bien regarder s'il y a un gymnase à côté de chez moi, un city stade à côté de chez moi, une piste d'athlétisme à côté de chez moi, peut-être des trucs de muscu, je sais pas comme il en arrive. On en voit, mais en fait, on sait pas trop où ils sont.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et donc, vous vous êtes dit, tiens, on va faire une carte pour permettre aux gens de le faire. Vous en avez parlé un petit peu autour de vous, de cette initiative, la famille, les copains, etc. Comment ils l'ont accueilli? Comment ils trouvent cette idée, les gens autour de vous?
Bah, j'ai dit à ma mère, elle était contente. Elle a dit c'est bien et tout.
Ok. J'ai entendu parler de Facebook tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver un peu l'avancée de votre projet, de votre entreprise?
Oui, on va sur la page Facebook, on marque Mini Julio. Et après, ça va nous mettre la page de Mini Julio. Et après, il va y avoir le site en bleu. On clique dessus et il y a la carte qui va s'afficher.
Et à terme, l'idée, parce que là, on est dans un contexte un peu particulier avec vous. Vous êtes tout jeune, mais c'est que cette carte, elle puisse ensuite être accessible à toutes les Rémoises, tous les Rémois, ouais.
C'est ça.
Aujourd'hui, là, il vous reste quoi à faire dans ce projet? Tout à l'heure, Shamseddine nous disait, bon, la carte, elle existe, j'ai entendu parler. Les tables de ping-pong, ça m'intéresse. Hein. Parce que moi, j'aime bien les jeux de raquettes. Hein. Donc aujourd'hui, on en est où? Parce que moi, j'aimerais savoir comment vous avez fait votre travail de recensement. Je me dis, il y a tellement de choses, hein, c'est quand même une grande ville. Comment vous avez fait pour recenser et faire cette carte?
On a regardé sur Google Maps, Google Earth, des lieux.
Ok, donc vous avez déjà utilisé des outils quand même existants, mais qui ne recensent pas uniquement les structures sportives.
Oui.
Ok, et ensuite?
Et après, du coup, on regarde, on a vérifié sur plusieurs endroits, Google Maps, Google Earth, et après on a placé sur la carte.
Ok, et alors ensuite, comment ça se passe? Il y a une petite photo, il y a juste un point avec une indication, c'est écrit, bon bah là il y a une table de ping-pong, là il y a un terrain de basket. À quoi ça ressemble exactement cette carte?
C'est un point avec une petite image de ce que c'est. Par exemple, pour un terrain de basket, vous verrez une petite balle et un petit panier. Et il y aura comme indication, c'est un terrain de basket.
Super, franchement c'est une super initiative. Alors moi je peux vous dire que dès que j'ai l'occasion de regarder cette carte, je vais la regarder, parce que c'est vrai que je vais dans des gymnases, mais beaucoup vont dans des salles de sport. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans des salles de sport, donc il y a une problématique de mobilité, une problématique économique aussi. Et de savoir, alors qu'on ne le savait pas, que peut-être à moins de 10 minutes de chez soi à pied, il y a un terrain de basket, il y a une table de ping-pong, il y a une course, une piste d'athlétisme, je pense que vous allez peut-être aider pas mal de gens dans une société dont on dit qu'elle est pas assez sportive, donc peut-être que vous allez nous mettre tous au sport. Justement, est-ce que vous considérez qu'elle est complète, ou il y a des gens qui nous écoutent là, qui peuvent se dire, mais attendez, là sur votre carte, là, le terrain de basket à côté de chez moi, il y est pas, je peux le rajouter. À terme, ça serait possible ça?
But justement, c'est que les Rémois et ses alentours, s'ils voient un terrain, peuvent le placer.
Donc, super.
Ils peuvent recenser à un certain endroit qui a certaines choses, activités sportives ou un loisir accessible et gratuit.
Oui, alors c'est ça le but, hein. Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais toutes les structures que vous recensez, je parlais de salle de sport tout à l'heure, c'est gratuit, c'est-à-dire qu'on peut y aller en accès libre.
Oui, c'est ça, oui.
Il y a des exemples là qui vous viennent en tête d'endroits où on se dit, bah tiens, je savais pas qu'il y avait un truc là et vous pouvez y aller gratuitement. Il y a comme ça, là, sans piège, hein, mais un endroit près de chez vous, peut-être, que vous avez repéré.
Déjà, c'est parti aussi du nouveau city qui est à côté du collège, qui a été refait tout à neuf.
Tout à fait, il est beau. Hein.
Il est magnifique et on s'est dit, est-ce qu'il va être bien vu? Ça serait bien que les gens sachent qu'il y a des belles choses dans le quartier Croix-Rouge.
Bien sûr. Ah oui, c'est aussi une façon de donner une autre image peut-être d'un quartier qui n'a pas toujours une super réputation. Et pourtant, il s'y passe tellement de belles initiatives qu'on essaye, nous, avec RGR, de relayer avec grand plaisir. Alors, pour celles et ceux qui veulent participer, donc vous aider quelque part dans cette initiative, ils font comment, les gens là qui nous écoutent?
Ça dépend, ils peuvent nous contacter ou ils peuvent mettre directement, je pense, sur la carte.
Sinon, ils vont sur la page Facebook dont on a parlé tout à l'heure. et puis ensuite on complète tous ensemble. Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir créé votre mini-entreprise.
Non,
eh oui, vous êtes nombreux un peu partout en France. Donc l'idée, c'est que vous participiez à un concours et que vous alliez le plus loin possible. Je crois que vous avez préparé une petite vidéo, c'est bien ça?
Oui.
Qui est déjà en ligne, là, sur le...
C'est ça, oui.
Donc l'idée, c'est qu'on aille voter pour vous soutenir.
C'est parce que c'est coup de cœur du public pour le championnat.
C'est une super initiative. Donc effectivement, il faut qu'on le gagne, ce petit coup de cœur là, avec vous, à Joliot-Curie. Qu'est-ce que les gens ont besoin de faire pour vous soutenir? Comment on fait?
Bah, ils vont sur le site Festival
des mini-entreprises, voilà. Je crois comme ça. Mais on va remettre, nous, le lien sur notre page.
Et on le remettra sur le nôtre, évidemment.
Le lien, je ne l'ai plus en tête. C'est vraiment un site spécifique pour le vote du prix coup de cœur du public. Donc, il faudra juste cliquer et valider sur le mail qu'ils ont
voilà,
reçu.
C'est ça. On clique sur le lien, on reçoit un mail, on valide le vote, en fait. Et plus il y en a, mieux c'est. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller au bout, c'est d'avoir la meilleure idée.
Oui.
La suite, ensuite, à donner à ça, là, parce qu'il y a les cours à côté, etc. Combien de temps ça vous prend, cette initiative, depuis le début du mois de janvier, là? Parce que j'imagine que c'est un bel investissement. Vous n'avez pas compté, vous prenez tellement de plaisir, j'imagine.
Ah oui, voilà.
On est sur une cinquantaine d'heures là, de travail, je pense. Déjà.
Ah ouais, c'est énorme.
Et le but, quand même, qu'est-ce qu'on en fait de cette carte?
Bah, la mettre sur les réseaux.
Ouais, on aimerait bien qu'elle ne soit pas perdue, parce que
le projet s'arrête
en fin d'année, c'est un projet scolaire. Mais nous, on aimerait bien que cette carte, elle soit reprise par quelqu'un, peut-être la ville de Reims, on tente par tous les moyens de les contacter.
On lance un message.
Voilà, c'est
on
ça.
Passe par ici, c'est aussi l'intérêt de passer par les médias, hein, évidemment, et on vous ouvre le micro avec grand plaisir. Donc, s'il y a des partenaires éventuels qui sont intéressés par ce recensement que vous avez fait, ce sera l'occasion pour nous de faire peut-être l'intermédiaire. Et puis, peut-être même qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble, hein, les jeunes, parce que nous-mêmes, on a un site internet autour de l'actualité sportive à Reims. C'est peut-être que on va travailler ensemble. Après tout, si les autres veulent pas le faire, on le fera, hein, avec grand plaisir. On arrive à la fin de cette interview. Ça passe très vite. Déjà, bravo pour l'initiative. Bravo d'être venu et merci d'être venu jusqu'ici derrière ce micro. Ça fait partie de l'exercice, hein, aussi dans le monde de l'entreprise, de savoir communiquer sur ces initiatives. Donc j'espère que cette expérience vous servira pour la suite. Et puis donc on rappelle, Madame Communication. les réseaux sociaux pour vous retrouver et puis vous suivre dans cette aventure.
Il y a Instagram, il y a Facebook, il y a les mails aussi.
Et on tape
Mini Joliot.
Voilà,
et le mail, c'est minijoliot@gmail.com.
Exactement. On remettra, nous, on s'y engage, les liens qui vont bien pour continuer à vous suivre. Et puis, il y a une date de fin de projet où on se dit, voilà, ça y est, l'aventure se termine ici.
Alors, le championnat se déroulera le 13 mai au Centre des Congrès de Troyes. Donc là, on va défendre notre projet devant d'autres jurys. On s'est posé sur le prix de l'innovation et le prix de l'économie solidaire.
Voilà, on est dedans.
On est sur ces deux labels-là. Mmh. Et puis après, on finira quand même notre mini-entreprise proprement et puis on l'arrêtera tranquillement.
Comment ça se passe? C'est une finale nationale ou alors ça passe d'abord par des étapes un peu plus régionales, locales?
Il y a trois concours dans le Grand Est.
Okay.
Et après, ça passe en national à Paris.
Ok, donc là, la première étape, c'est Troyes. Et ensuite, on vous souhaite d'aller le plus loin possible. Hein. Ça s'appelle Sport in Reims. C'est un super projet. Bravo à vous. On salue le reste de l'équipe, hein, parce que là, vous êtes qu'une partie de l'équipe et on rappelle que c'est un travail d'équipe, évidemment. Ça se passe bien au quotidien, l'entreprise vit bien.
Oui.
Tout le monde s'entend bien dans l'équipe.
Oui.
On se permet de leur faire un petit big up, évidemment. Merci beaucoup à vous tous.
Merci.
Et donc, Sport in Reims, on remettra les réseaux qui vont bien sur notre site internet. Petite pause et on poursuit cette émission dans quelques instants. À tout de suite. Merci à vous.
RJR.
RJR.
Every candle, every hour of the night, kept on searching high, low, here in the dark. I was hoping to escape and make a change here in my life. It only takes one little thing to light a spark. And you said, hearts break, life can knock you to the ground. Don't hang your head down, head down. You're still young, but know the best is yet to come. Don't hang your head down, head down. 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 Don't hang your head down, head down.
something to get burned, but at least they keep me warm just for a while. I got these growing pains and problems, I got so much left to learn, as I wander and I stumble through this life. I worry about the things I can't control, oh, oh, to the break of dawn. I think of all the things I'll never know, oh, oh, to the break of dawn. And you say, hearts break, life can knock you to the ground. Don't hang your head down, head down. You're still young, but know the best is yet to come. Don't hang your head down, head down. Don't hang your head.
Neurooptimiste, le podcast qui libère l'esprit, avec Antoine Menet.
Salut Antoine.
Salut Julien.
Quel plaisir de te retrouver, surtout en des temps où le ciel est un petit peu plus clément en ce moment, là, dans
mais
cette
oui,
période de l'année.
Ça y est, je prends des couleurs d'ailleurs.
Ça y est, bah, t'as bien de la chance. Voilà, c'est comme en tout cas pour tout le monde assez agréable pour le moral. Et d'ailleurs, j'ai toujours plaisir à retrouver cette période où, par exemple, les sports nautiques retrouvent l'eau plutôt que l'indoor, où les gens commencent à retrouver la possibilité de courir en extérieur, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très épanouissant. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux me confirmer? Parce que ça, j'ai hâte de savoir si scientifiquement ça se prouve.
Alors oui, scientifiquement évidemment ça se prouve, c'est quelque chose qui est très intuitif pour tout le monde, ça fait du bien d'aller dehors, ça fait du bien de prendre l'air, bien sûr ça fait du bien de prendre le soleil pour la santé, pour la vitamine D, mais rien que le fait d'être au contact de la nature, de voir de la nature, eh bien ça fait du bien aussi pour la santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait, et il y a une étude notamment qui est très connue dans cette thématique, qui est une étude de Roger Ulrich, qui est sortie en 1984, et qui montre que des patients hospitalisés à qui on avait donné une chambre qui donnait sur la nature, eh bien, restaient moins longtemps à l'hôpital, avaient un séjour post-opératoire plus court, avaient reçu un meilleur bilan, des meilleurs commentaires de la part du personnel médical dans leur dossier médical, et avaient eu moins besoin d'analgésiques puissants que des patients hospitalisés pour les mêmes soins, mais dont la chambre donnait sur un mur, sur une cour, sur des choses comme ça. Donc depuis 1984, on a vraiment cette étude qui est sortie et qui a montré que la proximité avec la nature, rien que le fait de voir la nature, nous aide à aller mieux.
Alors ça, je comprends ce que ces gens vivent, parce que nous, on vit un petit peu à l'étage moins un quand on travaille, et donc on n'a pas une luminosité extraordinaire, et dès qu'il fait beau, dès qu'on a la possibilité de pouvoir sortir, il y a une sorte d'excitation comme ça qui s'explique pas vraiment chez nous, mais qui s'explique certainement quand même, et qui montre qu'on est quand même plus efficace et plus souriant, en tout cas dans la cohésion, tout ça se ressent.
Oui, alors aujourd'hui, c'est encore des hypothèses qui sont faites là-dessus, mais celle qui est la plus avancée, c'est une espèce de biophilie, de tendance naturelle qu'a l'être humain à retrouver un environnement naturel, puisque après tout, on reste quand même des animaux évolués, et donc on fait partie de notre environnement, et on constate qu'effectivement, eh bien, on a une tendance naturelle à se rapprocher d'un environnement plus sain, plus naturel.
Alors, on a fait un podcast il y a quelques mois maintenant sur la question de la motivation. J'y reviens parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais moi, quand je sors pour aller faire du sport, pour faire une balade, ne serait-ce que ça, bah, je me sens mieux. » Le plus dur, c'est de sortir, c'est-à-dire de trouver la motivation de faire l'acte en fait de sortir.
Oui, c'est ça. Alors c'est une question de motivation, mais l'avantage c'est que comme ça a des effets démontrés sur le bien-être et sur la santé, eh bien en surfant sur cette biophilie, sur cette tendance naturelle qu'on a à se pousser à sortir, eh bien juste en commençant, en démarrant un petit peu, en se disant bah tiens aujourd'hui je vais faire quelques pas, on se prend assez rapidement à ce plaisir de se retrouver dehors.
Et est-ce que parmi les études que tu as consulté, il y a un retour sur la durée de sortie, par exemple. Est-ce que le fait qu'on sorte une heure ou 10 minutes, ça a une incidence finalement?
Alors, il n'y a pas d'impact réel sur la durée. Ce qui est intéressant, c'est de se dire où est-ce qu'on sort. Et quand il s'agit de sortir, est-ce que c'est la même chose de sortir en ville? Est-ce que c'est la même chose de sortir dans un parc? Et ça m'a fait penser beaucoup à ce qu'on appelle au Japon le Shinrin-yoku. Est-ce que tu connais le Shinrin-yoku?
Ah bah non, je parle pas beaucoup japonais, non. Pardon.
Alors, littéralement, ça peut se traduire par bain de forêt.
D'accord.
Donc,
ah oui,
prendre
donc on est sur la verdure.
De forêt, voilà, exactement. Alors, en France, en Europe, on a traduit ça un peu par sylvothérapie. Ouais. C'est l'immersion contemplative dans la forêt. C'est une sorte d'expérience en pleine conscience qui invite à aller se reconnecter à la forêt. Alors, j'en parle parce que, et il y a un terme japonais, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture japonaise, qui fait partie de cette culture. Alors, on retrouve aussi des études en Chine, mais ce sont bel et bien des études. C'est-à-dire que la médecine préventive par l'exposition à la forêt est un objet d'étude au Japon. Et un objet d'étude qui a démontré que ça fonctionne en termes de médecine préventive.
Très étonnant parce que souvent on a un cliché autour du Japon où on a des très grandes mégalopoles, ou métropoles en tout cas, qui font qu'on est quand même sur du gris, de la pollution, du béton, etc. Et en fait, ils sont quand même bien dotés, ça veut dire.
En tout cas, ils ont ce côté aussi, alors là on rentre plus dans l'aspect culturel peut-être, mais une grande proximité et un grand questionnement à la nature, aux forces de la nature, d'un point de vue aussi peut-être plus philosophique et spirituel, et une capacité à entrer dans cette contemplation, dans cette reconnexion. Et c'est peut-être aussi de par cette forte prégnance technologique et de ville qu'ils ont ressenti le besoin de se poser un peu la question sur leur rapport à la nature.
Ouais, côté un peu déconnecté.
Voilà, c'est ça. C'est de se dire, on a été longtemps très connecté aux objets, un peu déconnecté, en tout cas dans les grandes villes, assez déconnecté de la nature. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller rechercher de ce côté-là.
Bon, je donne un exemple. Là, nous sommes à Reims, nous ici, au moment où on enregistre ce podcast. On peut se retrouver, par exemple, ce week-end dans les Faux de Verzy, par exemple.
Voilà, tout à fait. En profiter pour aller faire du bien au corps et à la tête. Je parlais des études japonaises. Il y en a une, notamment, de 2011, de Yoshifumi Miyazaki, qui a démontré que l'exposition à la forêt, et alors tu parlais de timing, mais donc c'est juste une balade, 2-3 heures dans la forêt, permettait de diminuer le taux de cortisol, donc l'hormone du stress, et aidait à la baisse de la tension artérielle. Donc on a une solution intéressante de prévention de l'hypertension artérielle et de manière générale d'amélioration de la santé.
Bon, je sens que je vais recevoir des messages après l'écoute de ce podcast de gens qui voudront se balader.
Qui voudront te proposer des balades en forêt, mais ça vaut
très,
vraiment...
Très bien, ça me permet de revenir, je ne sais pas si tu te souviens du témoignage d'Amélie Geoffrin sur le dernier podcast qu'on a fait, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur tous les supports de Sport Club et les tiens, un Europe Optimiste évidemment, avec toi Antoine évidemment. L'occasion de se rappeler son témoignage, elle qui fait du canoë, kayak, et qui se disait très contemplative sur son environnement, l'eau, la verdure, etc. On revient à ça finalement.
Absolument. Alors là, il y a vraiment, et c'est pour ça qu'on l'avait souligné aussi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la capacité d'émerveillement qui fait du bien à notre cerveau. Et là, on a vraiment un combo génial parce qu'on a à la fois cette capacité d'émerveillement qui nous aide à être heureux, on a la pratique du sport qui fait du bien, et la pratique du sport dans un milieu naturel. Et pour le coup, ça a été étudié aussi. C'est une étude de 2014 de Bungjin Park qui a pris, toujours au Japon, on est toujours dans ce lien avec la forêt, qui a pris sur 4 sites différents au Japon, donc pour essayer de montrer que c'était pas lié à une forêt particulière. Sur chaque site, il y avait 12 personnes. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé à ces personnes d'aller marcher. Il en a envoyé 6 sur chaque site en forêt, 6 en ville, et le lendemain, il a échangé les groupes. Donc pour vraiment montrer que c'était pas une question des personnes qui ont été piochées pour aller marcher en forêt, et sur 4 sites différents. Et de manière statistiquement probante, il a démontré que les personnes qui vont marcher en forêt par rapport aux personnes qui vont marcher en ville, eh bien, ressentent beaucoup plus de détente, ont moins d'intensité de rythme cardiaque, et donc on peut se dire que finalement ça génère quand même un certain stress, le fait de marcher en ville, même de marcher de manière détendue, en tout cas plus de stress que de marcher en nature. Et toutes les personnes qui ont fait la marche en forêt déclarent ressentir des émotions plus agréables liées à cette marche. Donc le fait de faire du sport dans la forêt par rapport au fait de faire du sport dans la ville, eh bien ça a un véritable impact.
ça a un impact aussi sur la productivité derrière, parce que moi, à chaque fois que je me balade en forêt, j'ai des nouvelles idées.
Alors ça, c'est un sujet, à mon avis, qu'on peut relier à un thème qu'on a déjà traité, qui était la question des états modifiés de conscience et de la méditation. Mais je vous laisse revenir à ce podcast.
Oui, c'était il y a quelques mois. Merci beaucoup Antoine. Si on devait se terminer sur 2-3 tips comme on a l'habitude de le faire, quels conseils on pourrait donner aujourd'hui, donc au-delà de dire bah, faut sortir quoi.
Je pense que en vrai on pourra pas échapper au conseil faut sortir, mais peut-être se poser la question pourquoi pas de cette exposition à la forêt pour celles et ceux qui courent dans un milieu urbain, et eh bien pourquoi pas choisir de passer par des parcs ou de passer par des endroits de verdure et d'aller privilégier ça. Pour celles et ceux qui vont courir plutôt dans les champs, pourquoi pas essayer de faire un crochet par une forêt et de se laisser inspirer par l'âme du Japon.
Ben voilà, changer de cadre un petit peu, changer d'environnement, plus vert. Merci
exactement.
Beaucoup Antoine. Je sais pas si c'est quelque chose de vert que tu vas choisir, mais je t'invite à en boire un de vert moi.
Et ben tant qu'à rester dehors, Sex on the Beach.
Allez, santé.
Santé.
RJR.
Time we're in the dark, trying to light a spark. Though my heart was made of gold, did I really go too far? So did we go too far? Messed it up, guess I should've known. I burned it down to the pieces. When I was only trying to see the light, I had a million good reasons, but I never meant to start.
RJR à Reims sur 106.1 et en DAB+.
Diabète, obésité, maladie du foie gras sont des affections chroniques. Associées à des pathologies du cœur, elles sont appelées maladies cardiométaboliques et sont une cause majeure de décès en France.
Face à cet enjeu de santé publique, les médecins et chercheurs de l'IHU à Cannes, la Fondation Cardiométabolisme et Nutrition, se mobilisent.
Pour soutenir la recherche contre les maladies cardiométaboliques, faites un don. Rendez-vous sur le site ihuican.org. ihuican.org.
RJR Midi.
RJR Midi.
On se retrouve sur RJR pour la pause de midi avec des infos, des invités, des chroniques, des cadeaux et tout ce qui fait bouger la ville. Culture, ciné, loisirs, sport, développement durable, associations, études, métiers. Rendez-vous du lundi au vendredi à midi sur RJR. RJR Midi
avec le Crous de Reims.
La cartonnerie présente Yoa. En concert samedi 26 avril à la cartonnerie de Reims. Réservation, point de vente habituel. Plus d'infos, cartonnerie.fr.
Les artistes régionaux ont leur radio. RJR. Thomas Legrand.
Et toi, tu rêves d'ailleurs. Tu joues avec ma vie, avec mon cœur.
Qui plane. Alice Drissi.
J'ai épuisé mes larmes, mes ennuis.
Les artistes régionaux ont leur radio. RJR.